VOA Afrique, les infos. À Washington.
Dans quelques minutes, le magazine au féminin avec Nathalie Barge. En attendant, un bulletin d'information, ici chez Rubin Dorcil. Nous aurons au Burundi où 9 opposants à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza ont été blessés aujourd'hui dans de nouveaux affrontements avec la police à Bujumbura, la capitale. Le gouvernement burundais a fermé les résidences universitaires pour enrayer la protestation. Timothée Dunangmaï.
De nouveaux heurts ont eu lieu dans le quartier de Kinanira, dans le sud de Bujumbura. Des jeunes avaient réussi à passer 2 barrages avant d'être arrêtés par la police anti-émeute qui tirait à balles réelles. Selon la Croix-Rouge, le bilan partiel est de 9 blessés. La police déplore une 60aine de blessés depuis le début des manifestations dimanche et 6 personnes ont été tuées. Le gouvernement a fermé les résidences universitaires officiellement pour des problèmes de sécurité, mais pris comme un geste pour enrayer la protestation. Samedi, Pierre Nkurunziza a été désigné candidat de son parti, le CNDD-FDD, à la présidentielle du 26 juin. L'opposition et la société civile sont déterminées à se battre contre cet éventuel troisième mandat. M. Nkurunziza a été élu en 2005 par le Parlement, puis au suffrage universel en 2010. Son camp assure que le premier mandat ne compte pas du fait du suffrage indirect. Un émissaire américain et un envoyé onusien sont à Bujumbura pour tenter de trouver une solution.
Le chef de la rébellion ougandaise des forces démocratiques alliées ADF, accusé d'avoir assassiné plus de 300 personnes depuis octobre dans l'est de la République démocratique du Congo, a été arrêté en Tanzanie. Selon le journal officiel ougandais New Vision, que cite l'AFP, Jamil Mukulu est actuellement détenu en Tanzanie dans l'attente d'une extradition en Ouganda. Les polices ougandaises et tanzaniennes ont refusé de confirmer ou démentir cette arrestation. Les rebelles musulmans des ADF, opposés au président ougandais Yoweri Museveni, sont basés depuis 1995 dans l'est de la RDC, où ils mènent des attaques contre les civils. Au Mali, 4 personnes ont été tuées aujourd'hui et plusieurs autres blessées dans le nord du pays par l'explosion d'une mine au passage de leur minibus près de Gao. Les populations du nord s'inquiètent et doutent de la signature de l'accord de paix le 15 mai prochain. Reportage Boubacar Touré.
Le véhicule de forêt se rendait à Doro, à 105 km de Gao, à bord plus d'une vingtaine de personnes. À Anafarka, village situé à 45 km de Gao, il saute sur une mine ce matin, un peu avant 7h heure locale, faisant 2 morts sur place. Une 3e personne meurt en cours de route et une 4e succombe à ses blessures à l'hôpital régional où plusieurs blessés reçoivent des soins intensifs. Les auteurs de ce crime perpétré contre des civils innocents visaient certainement le convoi de militaires qui escortaient les cars et les camions de Gao à Gossi. Une disposition prise par les autorités militaires après les assassinats de 3 chauffeurs de camions civils qui transportaient du matériel de la MINUSMA la semaine dernière. Cette disposition entrait en application ce jeudi matin. Une situation d'insécurité grandissante qui inquiète les populations du Nord qui commencent à juste titre de douter de la signature d'accord de paix du 15 mai prochain annoncé par les autorités de Bamako et la communauté internationale. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Toujours au Mali, le calme est revenu à Léré dans le centre du pays, indique l'AFP, suite aux combats qui ont opposé hier la rébellion à l'armée malienne. Ces combats ont fait 10 morts parmi les rebelles et 9 chez les militaires, ainsi qu'une 20aine de blessés au total, a annoncé le ministère malien de la Défense. Dans un communiqué, le ministère a affirmé que le bilan provisoire de ces affrontements près de la frontière mauritanienne s'élève pour l'armée à 9 morts, 6 blessés, 6 otages et côté ennemi à 10 morts et 16 blessés. Le ministère assure que l'Éré est maintenant sous contrôle de l'armée. Selon l'armée nigériane, les quelques 500 otages de Boko Haram libérés cette semaine par les forces armées dans la forêt de Sambisa étaient détenus dans des conditions inhumaines. Lionel Gaïma.
L'armée va complètement ratisser la forêt, a déclaré hier à Abuja le porte-parole de l'armée Chris Olukolade, ajoutant qu'il y avait grand espoir que d'autres otages soient libérés. Près de 500 femmes et enfants enlevés par Boko Haram ont été libérés depuis mardi dans le nord-est du pays. L'armée a annoncé hier la libération des 160 femmes et enfants dans la forêt de Sambisa, venant ainsi ajouter à la libération la veille de 300 femmes et filles dans la même zone. L'armée doit les identifier avant de savoir si parmi elles figurent certaines des lycéennes enlevées à Chibok en avril 2014. Elle a publié des photos. Selon M. Oloukolade, l'armée a pris le contrôle de plus de 13 camps islamistes au cours des derniers jours et a saisi des armes. Plusieurs commandants et combattants islamistes ont été tués, a-t-il dit, et un soldat a été tué et 10 autres blessés.
En Mauritanie, des milliers de Haratine, les descendants d'esclaves, ont marché hier à Nouakchott pour réclamer leurs droits. Les principaux leaders des mouvements contre l'esclavage, notamment Biram Daould Abeid, sont toujours en prison. Balla Touré, militant anti-esclavagiste à Nouakchott.
Le 29 avril, les Haratines ont marché à Nouakchott. C'était pour l'anniversaire de la publication du manifeste pour les droits des Haratines. La manifestation a rassemblé beaucoup de monde. Cette marche rentre dans le cadre de leur plan d'action pour que les Haratines recouvrent leurs droits à la justice, à une éducation décente, leur droit à accéder au travail en Mauritanie, leur droit à être des citoyens à part entière. Les militants anti-esclavagistes d'Iran Mauritanie, Biram Daavid, le vice-président Brahim Biya, ainsi que le président Fanje Kautal Ngambeli Karikibissou, sont encore en prison pour avoir dénoncé l'esclavage foncier, dont sont victimes généralement les Noirs en Mauritanie. Une ou deux personnes ou une famille a la possibilité de posséder dans une contrée toutes les terres fertiles et que toute personne qui refuse de se soumettre à leur dictat ne peut accéder à la terre. Et tout cela est fait avec une complicité active des autorités mauritaniennes.
Balla Touré, militant anti-esclavagiste à Nouakchott. Les Nations Unies trouvent crédible, libre et transparente l'élection du 25 avril au Togo, officiellement remportée par le président sortant Fornia Singbé, mais contestée par l'opposition. Nous sommes contents de ce que nous avons vu, a déclaré aujourd'hui à Lomé, selon l'AFP, Mohamed Ibn Chambas, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. La formation du challenger Jean-Pierre Fabre, CAP 2015, a rejeté ses résultats, qualifiant le scrutin de frauduleux. Et Fabre a dit lui-même hier qu'il se considérait comme le président élu du Togo.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Niger, les syndicats du pays ont appelé à des prières collectives demain vendredi à la place du traditionnel défilé du 1er mai après l'attaque des islamistes de Boko Haram de samedi sur le lac Tchad, attaque qui a fait au moins 74 morts. Le gouvernement a décrété un deuil de 3 jours depuis mercredi. Le bilan de l'attaque de samedi est le plus élevé enregistré par le Niger depuis que le pays est entré en lutte contre le groupe armé nigérian début février. Les eurodéputés ont appelé aujourd'hui l'Union européenne à aider le Kenya à faire face à la menace des islamistes somaliens d'Al-Shabaab en fournissant de la formation et des équipements militaires modernes aux forces de sécurité de Nairobi. La résolution des eurodéputés fait suite au raid mené début avril par les Shabab contre l'université de Garissa au Kenya qui a fait plus de 140 morts parmi les étudiants. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a été reçu aujourd'hui par le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy. Sa visite, la première d'un président égyptien depuis 2006, a été mal accueillie par les défenseurs des droits de l'homme qui dénoncent la répression en Égypte. Un accord sur le renforcement de la coopération dans la lutte contre le terrorisme, l'immigration illégale et le crime organisé a été signé par les ministres de l'Intérieur de ces deux pays. Crise au Yémen, les monarchies du Golfe ont exigé ce jeudi que toute négociation se tienne à Riyad sous les auspices de leur groupement régional. Les 6 pays membres du Conseil de coopération du Golfe, précise l'AFP, ont formulé cette exigence dans la capitale saoudienne à l'issue d'une réunion de leurs ministres des Affaires étrangères. Elle rejette ainsi les appels de l'Iran à des pourparlers internationaux hors de l'Arabie saoudite. L'Iran, qui a déployé 2 navires de guerre dans la région, soutient les rebelles houthis du Yémen, tandis que l'Arabie saoudite appuie les partisans du président yéménite en exil, Abdrabo Mansour Hadi. La Chambre des représentants des États-Unis envisage une mesure augmentant les fonds alloués aux combattants kurdes, les Peshmerga et forces sunnites luttant contre le groupe État islamique en Irak. En tout, ces soldats recevraient 25% des 715 millions de dollars dont le versement a déjà été autorisé par le Congrès pour la formation et l'approvisionnement des forces luttant contre les djihadistes. Baltimore, dans l'est des États-Unis, dans l'ouest de Washington. Encore dans l'actualité, l'attention se porte maintenant sur le rapport d'enquête de la police autour de la mort de Freddie Gray le 19 avril dernier après son interpellation. Ce rapport, disent les autorités, a été transmis au procureur qui va décider si oui ou non les 6 policiers impliqués dans le cas doivent être inculpés. Les nouvelles du monde, Washington, chez Ruben Orsil.
Soyez au cœur de l'info sur